Voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La CSU, allié majeur d'Angela Merkel, recule dans son fief en Bavière. C'est un revers électoral majeur pour la coalition autour d'Angela Merkel. Mais c'est aussi une victoire des Verts dans les urnes. Analyse de notre envoyé spécial à Munich que nous retrouvons dans un instant.
La bataille des mots et des chiffres au gouvernement. Alors que le budget 2019 doit être débattu à l'Assemblée, l'exécutif annonce un gain de 6 milliards d'euros en pouvoir d'achat pour les Français. Tout le monde n'en gagnera pas, prévient un économiste.
Là aussi, cela ressemble bien à un exercice de communication. Ce matin, le ministre de l'Éducation dévoile des premiers résultats pour les évaluations en CP et en CE1. Ils ne seront pas très bons, dit-il, mais ils ne valent pas grand-chose, répondent les syndicats. Notre spécialiste éducation examinera tout cela.
Et puis nous irons aux États-Unis, où l'université d'Harvard est poursuivie pour discrimination positive envers des étudiants d'origine asiatique.
Pourquoi les ministres issus de la société civile sont soupçonnés de conflits d'intérêts? Question posée par Frédéric Seyss après ce journal dans son billet politique, alors que le remaniement se fait toujours attendre. Même quand on arrive premier, on peut avoir l'impression d'avoir perdu. C'est le cas en Allemagne des membres de la CSU bavaroise au lendemain des élections régionales en Bavière. Avec près de 37% des voix, le parti conservateur allié d'Angela Merkel perd sa majorité absolue pour la deuxième fois seulement depuis 1962. Et si l'AfD, le parti d'extrême droite, recueille près de 11% des suffrages et entre au Parlement régional, eh bien ce sont les écologistes qui arrivent deuxième. Bonjour Ludovic Piétenu.
Bonjour Clara, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant outre-Rhin. Ludovic, les Verts ont obtenu hier en Bavière près de 18% des voix et avec elles un poids non négligeable dans le paysage politique.
Ils remportent 38 sièges sur les 180 du Parlement de Bavière. Ils doublent leur score en 5 ans. Les Verts ont mené ici une campagne intense et joyeuse. Ils ont parlé d'environnement et d'éducation plutôt que de sécurité et d'immigration. Une campagne tout à fait centriste. Ne vous y trompez pas. Les Verts bavarois n'ont pas grand-chose à voir avec un parti de gauche. Mais ils avaient deux candidats tête de liste très dynamiques. Une femme de 33 ans, un homme de 40 ans. Ce qui a contrasté, c'est certain, avec beaucoup des candidats des autres partis. Les Verts, portés par des sondages qui, depuis cet été, leur prédisaient ce score inédit à deux chiffres, en challenger des partis traditionnels, au coude à coude avec le nouveau venu à l'extrême droite, l'AfD. Mais début septembre, l'écart se creuse nettement entre les écolos et la droite radicale, plus de 7 points, tout à fait conforme aux résultats d'hier soir. Les deux formations, en fait, ont siphonné la CSU de la même façon. 180 000 anciens électeurs chrétiens sociaux sont partis, pour les plus modérés d'entre eux, chez les Verts, 180 000 autres, les plus radicaux, les plus conservateurs, vers l'AfD. Cette énergie bavaroise des écologistes, Clara, se retrouve également depuis le début du mois dans les sondages nationaux où les Verts sont donnés désormais comme la deuxième force politique d'Allemagne.
Voilà donc pour les alternatives aux partis traditionnels. On l'a compris, CDU, CSU et les sociaux-démocrates du SPD qui, 7 mois après avoir formé une coalition, ne séduisent plus beaucoup outre-Rhin. Cette grande coalition de la chancelière Angela Merkel semble ce matin plus qu'hier au pied du mur, Ludovic.
Oui, la chancelière peut faire les comptes hein, ce matin. Parmi ses alliés, ça ne va pas fort du tout. Conservateurs de la CSU et sociaux-démocrates du SPD perdent ensemble en Bavière 21 points en 5 ans. Au niveau national, les sondages de ce début d'automne ne sont guère mieux. La grosse coalition CDU, CSU, SPD pèse autour de 43-44%. Elle n'est plus majoritaire. Cela pose une première question lancinante depuis le montage de cette coalition très fragile depuis 6 mois. Quel intérêt ont les sociaux-démocrates à y participer? Hier soir, le SPD en Bavière faisait vraiment grise mine, sous la barre des 10%, cinquième force politique seulement. Au niveau national, il est troisième ou quatrième, c'est guère mieux, talonné par l'AfD quand elle ne le dépasse pas dans certaines enquêtes. La coalition à Berlin va subir un autre test électoral. Il faudra le suivre, ce sera dans 15 jours dans le land de Hesse, la région de Francfort. Et là, ce n'est plus la Bavière, ce ne sera plus la CSU, mais la CDU d'Angela Merkel directement, qui va devoir sauver sa peau. Et tous les indicateurs, Clara, annoncent déjà une débâcle.
Merci beaucoup Ludovic Piétenu, vous étiez en direct de Munich pour France Culture. Et nous évoquions la percée verte en Bavière. Eh bien, hier aussi, ils se sont fait une plus grande place en Belgique lors d'élections communales, notamment dans l'agglomération bruxelloise. Et puis au Luxembourg également, les écologistes progressent dans les urnes avec 15% des voix hier lors des législatives. En tête, le parti démocrate chrétien du Premier ministre, dont le sort est tout de même incertain ce matin. Il est talonné par les socialistes et les libéraux. 19 budgets devant la Commission de Bruxelles aujourd'hui. Les 19 budgets des pays de la zone euro pour l'année prochaine. Et cette année, c'est vers l'Italie que tous les regards vont se tourner. L'Italie qui a la plus faible croissance et dont 27 milliards d'euros de dépenses ne sont pas couvertes pour le budget prévu l'année prochaine. En France, le budget 2019 avait été présenté fin septembre par le gouvernement. Il doit maintenant être discuté à l'Assemblée nationale à partir de cet après-midi. Il sera question de l'impôt et des taxes. Le gouvernement promet un gain de pouvoir d'achat de 6 milliards d'euros pour les Français. Un chiffre contesté par certains économistes car il ne prend pas en compte le quasi-gel des pensions de retraite et des allocations familiales. Écoutez à ce propos Henri Sterdignac, économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Il est spécialiste des questions budgétaires.
En fait, il n'y aura pas de hausse de pouvoir d'achat en raison de ce budget. Bien sûr, le budget confirme le fait que la taxe d'habitation va baisser pour 80% des Français. Il confirme la baisse des cotisations sociales salariées qui ont déjà eu lieu au 1er octobre. Mais en contrepartie, la taxation de l'énergie et du tabac augmente fortement. Les retraites et les prestations familiales ne sont pas revalorisées comme l'inflation. Et donc, grosso modo, le budget est neutre, il n'apporte pas de pouvoir d'achat aux Français. D'abord, on sait que les classes qui vont perdre, c'est avant tout les retraités, puisqu'ils supportent la hausse de la CSG qui a eu lieu cette année, plus la désindexation des retraites. Et les personnes qui gagnent sont les plus riches, ceux qui bénéficient de la réduction de la fiscalité sur les revenus du capital, la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune et aussi de la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés.
L'économiste Henri Sterdignac avec Manon Claverie. 53 nouvelles plaintes contre le glyphosate de Monsanto seront déposées aujourd'hui en France devant le tribunal de grande instance de Foix dans l'Ariège. Le collectif Campagne Glyphosate évoque une mise en danger de la vie d'autrui, une tromperie aggravée et une atteinte à l'environnement. Des plaintes qui sont étayées par des analyses d'urine d'ariégeois contaminés par ce pesticide. Et il compte en déposer d'autres dans toute la France lors des prochains mois. Voici à présent des chiffres qui vont dans le sens des réformes voulues par le ministre de l'Éducation nationale, des chiffres qui sont présentés par le ministre lui-même ce matin. Près de la moitié des écoliers en classe de CE1 ont des difficultés en calcul mental. 23% des élèves en début de CP ont des difficultés, eux, à reconnaître les lettres et le son qu'elles produisent. Jean-Michel Blanquer dévoile dans les colonnes du quotidien 20 minutes les résultats provisoires des évaluations auxquelles ont participé en ce début d'année 1,5 million d'élèves. Résultats provisoires, c'est ce qui interpelle les syndicats dès ce matin, comme Stéphane Crochet, secrétaire général du SEUNSA.
On ne s'attendait surtout pas à avoir une communication des résultats par le ministre à peine 48 heures après la fin de la saisie des résultats, des réponses de nos élèves. Ça fait 4 semaines que nos collègues, avec leurs élèves dans les CP et les CE1, font passer ces tests, puis ont passé leur soirée, voire leur nuit, à tenter de saisir les réponses de leurs élèves. Ils avaient jusqu'au 12 octobre pour le faire, ils se sont hâtés de le faire dans des conditions techniques difficiles, et là ils découvrent, moins de 48 heures après, quelques chiffres lancés. On ne sait pas ce que ça veut dire, on ne sait pas à quel exercice le ministre fait référence. C'est bien un coup de communication, c'est un coup politique, enfin quand même, quand on dit qu'un élève sur deux en CE1 aurait des difficultés avec le calcul mental, on peut s'interroger sur la qualité de l'exercice lui-même.
Stéphane Crochet du syndicat SEUNSA parle donc d'un coup politique au micro de Lucie Barbarin ce matin. Cela ressemble-t-il effectivement, Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Clara.
Cela ressemble-t-il effectivement à un exercice de communication de la part du ministre?
Oui, une stratégie stratégie de communication qui consiste pour Jean-Michel Blanquer à dire « je fais ce que je dis », dans laquelle on retrouve le principe du « en même temps » si cher à Emmanuel Macron, d'où la présentation ce matin en Conseil supérieur des programmes de toute une série de mesures qui interviennent au même moment que les évaluations. À commencer par la scolarisation obligatoire dès 3 ans, ainsi que d'une contribution financière des collectivités publiques aux écoles maternelles privées, ce qui n'était jamais arrivé, un geste qui s'adresse à l'aile droite du gouvernement. Il prévoit aussi le remplacement du CNESCO, conseil d'évaluation du système scolaire, par un conseil d'évaluation de l'école. Ce que dénoncent les syndicats, qui estiment que le ministre veut une instance à sa main, puisqu'il choisira lui-même les 4 personnalités chargées de mettre en place ces travaux, auxquels il faut ajouter un député et un sénateur. Enfin, Jean-Michel Blanquer veut réformer la formation initiale et continue, avec la fin des ESPE, École supérieure du professorat, mise en place sous François Hollande, qu'il veut remplacer par les instituts nationaux supérieurs du professorat. Vous le voyez, il n'y a pas vraiment une grande différence, dont les directeurs se c'est très important, nommé directement par le ministère de l'Éducation et celui de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ce qui montre une reprise en main du ministre qui veut mettre en place sa doctrine.
Merci beaucoup Hakim Kasmi. Notons que les enseignants seront appelés à faire grève le 12 novembre prochain. Notons aussi que si Jean-Michel Blanquer, un expert devenu ministre, semble plaire à l'exécutif à son poste à l'Éducation nationale, le remaniement se fait toujours attendre, 14 jours après la démission de Gérard Collomb du ministère de l'Intérieur.
8h11 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Grimpons quelques échelons dans l'éducation. Aux États-Unis, l'université d'Harvard est jugée aujourd'hui.
Oui, à Boston, la prestigieuse université de la côte Est est accusée de discrimination par des étudiants d'origine asiatique. Selon les plaignants, ils enregistrent les meilleurs résultats académiques et ils auraient été discriminés afin de favoriser d'autres étudiants de première année. Le procès, au-delà de celui d'Harvard, pourrait être aussi celui de la discrimination positive dans le pays. Voici les précisions de notre correspondant Grégory Phillips.
L'Association des étudiants pour des admissions équitables affirme que l'université d'Harvard pratique une politique de sélection défavorable aux candidats d'origine asiatique. Selon cette organisation, les personnes d'origine asiatique ne représenteraient que 19% des étudiants admis en première année, alors que si on prend en compte les seuls résultats académiques, ils devraient être le double. Toujours selon cette organisation, Harvard aurait imaginé d'autres critères pour favoriser les étudiants blancs, noirs ou hispaniques. La prestigieuse université se défend en affirmant qu'elle ne discrimine aucun groupe ethnique, mais qu'en revanche, elle reste attentive à ce que ses promotions soient les plus diverses possibles en termes d'origine, de couleur de peau ou de milieu social. Le procès qui s'ouvre aujourd'hui sera en tout cas suivi par toutes les universités du pays et par l'administration Trump. La politique de l'affirmative action mise en place à la fin des années 60, à l'époque pour favoriser l'entrée des Noirs à l'université ou sur le marché du travail, est aujourd'hui remise en cause. L'été dernier, la Maison-Blanche avait supprimé plusieurs directives sur la discrimination positive adoptées pendant la présidence Obama.
Les djihadistes veulent poursuivre le combat à Idlib en Syrie. Malgré l'ultimatum posé par la Russie et la Turquie, ils occupent toujours ce matin une zone qui devait être démilitarisée. Des tirs d'armes lourdes ont par ailleurs été entendus samedi soir depuis cette zone. Elles auraient en principe dû être retirées. Et puis en Syrie toujours, le principal point de passage pour rejoindre la Jordanie a rouvert ce matin. Il était fermé depuis 3 ans. Prenons à présent la direction de la Corée du Sud, le pays considéré comme le plus connecté au monde et il tient à conserver son avance. Séoul va devenir en mars prochain le premier pays à commercialiser l'internet mobile ultra rapide, la 5G. La connexion sera en théorie 100 fois plus rapide que la 4G actuelle. Alors les opérateurs et les constructeurs luttent déjà pour s'imposer sur ce marché qui promet d'être très lucratif, Frédéric Ojardias.
La 5G offrira des temps de téléchargement presque instantanés et jouera un grand rôle dans le développement de la réalité virtuelle et des voitures autonomes. Celles-ci pourront communiquer très rapidement entre elles pour éviter des accidents. Si du point de vue d'un utilisateur de smartphone, la différence avec la 4G actuelle reste minime, les internautes coréens vont quand même se jeter sur ce nouveau service, assure Song Eun-mi, vice-présidente de l'opérateur téléphonique KT.
C'est dans la nature des gens. Dès qu'ils commencent à utiliser un service plus rapide que l'ancien, alors oui, ils veulent l'adopter. Et dans notre secteur des technologies de l'information et de la communication, si nous ratons le virage de la 5G, nous serons loin derrière nos concurrents. C'est notre principale préoccupation.
Une grande bataille mondiale s'est ouverte autour de la 5G. Opérateurs et constructeurs veulent imposer leurs technologies et leurs standards. Les services vont se multiplier. Kim Bo-sun, cofondatrice de l'agence digitale Asiance à Séoul.
Je pense que la 5G va réellement changer la ville. On pourrait installer les caméras partout qui permettra de tout voir. Je pense que la 5G va créer un appel d'air pour de nouveaux services et applications qui n'existent pas encore.
Les enjeux économiques sont énormes. La Commission européenne estime que d'ici 2025, rien que pour l'Europe, l'introduction de la 5G se traduira par 113 milliards d'euros de bénéfices sur plusieurs secteurs industriels, notamment l'automobile et la santé.
C'était Frédéric Ojardias depuis Séoul pour France Culture. Il pleut ce lundi sur toute la façade ouest et sur le sud de la France où une vigilance pluie-inondation est en vigueur ce matin, du Tarn-et-Garonne jusqu'aux Pyrénées-Orientales. L'Aude est en alerte rouge. D'ailleurs, ce matin, le préfet annonce déjà 3 morts à l'agence France Presse à cause de ces intempéries dans le département. Il conseille évidemment d'éviter tout déplacement dans l'Aude. Partout ailleurs, le temps sera couvert avec des températures de saison encore. 13 degrés ce matin à Brest, 15 à Bordeaux, 17 à Besançon et Lyon, 20 à Paris, 22 à Marseille.